Vous savez, ces images sur lesquelles vous bloquez parfois, qui vous rassurent, qui vous calment, qui vous procurent un sentiment de satisfaction indéfinissable aux grandes dames de votre entourage qui ne comprend pas pourquoi vous faites ça, pourquoi vous regardez en boucle des vidéos de bulles qu'on craque, de pâtes à modeler qu'on découpe ou de métal qu'on détruit. Moi, c'est l'image d'un projecteur dans la nuit, un projecteur de cinéma, ce qu'il diffuse comme lumière, comme image que je ne vois pas. Dans la lumière, il n'y a que des particules de poussière. Pour moi, c'est extraordinaire. J'y passe des heures la nuit. Je regarde ces images comme un film de cinéma, ou plutôt l'envers d'un film de cinéma, puisque c'est le projecteur que je vois. On le sait, il n'y a pas d'image sans lumière. Une image, c'est une façon de réfléchir la lumière, c'est une interprétation de la lumière. Et le plus beau, c'est qu'en plus des images qu'on voit, on a la mémoire des images du passé, et donc de lumière passée qu'on ne cesse d'interpréter ou de réinterpréter. J'y pense tout le temps à ça, en particulier quand je regarde cette image d'un vieux projecteur de film dans la nuit, cette image d'un projecteur de lumière dont les faisceaux laissent apparaître des particules de poussière. Pour moi, c'est ça le cinéma, c'est cette lumière-là.
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. De quelle lumière sont faites les images de mon invité d'aujourd'hui? Ses films, Apocalypse Now, la trilogie du Parrain ou encore Dracula, en ont fait l'un des cinéastes vivants les plus impressionnants. La semaine dernière, il recevait à Lyon le 11e prix Lumière pour l'ensemble de sa carrière. Bonjour, Francis Ford Coppola. Merci d'être avec nous ce matin. Tout d'abord, dans quelle mesure est-ce que le cinéma pour vous c'est d'abord de la lumière?
Well, to discuss light is to talk about something.
Parler de la lumière, c'est aborder un domaine particulièrement riche, ne serait-ce que définir ce que c'est que la lumière. Nous savons que nous, les êtres humains, nous avons cinq sens et que l'un d'entre eux est un outil de perception de la lumière. Et le mot « lumière », il est synonyme de connaissance. Mettre en lumière, éclairer, ça veut dire comprendre et expliquer. De toutes nos perceptions, la lumière semble particulièrement souveraine. Ce qui est intéressant, c'est que, sur Terre, nous descendons de créatures qui avaient des yeux, qui avaient le sens de la vue, mais que d'autres créatures apparues il y a 900 millions d'années avant nous, le mollusque, la pieuvre, étaient aussi pourvues d'yeux très sophistiqués. La nature a donc créé deux fois des êtres vivants doués de vision. Il y a nous et les animaux qui nous ont précédés, et puis il y a ces créatures apparues il y a presque un milliard d'années et qui, elles aussi, déjà, avaient des yeux. Ça montre bien l'importance de la lumière et de la nécessité d'interagir avec.
Alors le cinéma, dans tout cela, le cinéma a pour but parfois de nous illuminer.
Oui, la lumière joue un rôle profond pour nous tous. Nous mesurons les distances par ce qu'on appelle des années-lumière, par la vitesse de la lumière quand elle se propage, c'est une donnée mathématique. La lumière et notre relation à elle, c'est un domaine inépuisable. Les premiers philosophes comme Platon décrivaient notre condition comme celle d'êtres qui vivent dans une caverne et qui ne distinguent que des ombres venues de la lumière. Goethe, le grand poète, ses derniers mots à sa mort ont été « encore un peu de lumière ». La lumière, c'est quelque chose qui nous donne à réfléchir, à méditer et à nous interroger. Et le cinéma, bien sûr, c'est en fait, comme chez Platon, des ombres et de la lumière. Mais nous pouvons en tirer tellement d'émotions, de partage et de connaissances que l'importance centrale de la lumière dans nos vies mérite qu'on y réfléchisse.
La première fois que vous avez été touché par la lumière du cinéma, Francis Ford Coppola, c'était quand ?
Je dirais que c'est sans doute en découvrant Blanche-Neige et les Sept Nains, qui est peut-être le premier film que j'ai vu et dont je me souvienne. Et toute ma vie, elle se construit ensuite autour d'idées que j'ai découvertes dans Blanche-Neige. L'idée d'une princesse, bien sûr, telle qu'on la voit dans la version de Walt Disney. Et puis ce film a fait de moi un lecteur très précoce et passionné. Et je lisais les contes de fées, les contes d'Andersen ou des frères Grimm. Je peux donc dire que ma découverte, non seulement du cinéma, mais de la vie, s'est faite par Blanche-Neige et les Sept Nains de Walt Disney.
Mais de cette projection de Blanche-Neige et les Sept Nains, qu'est-ce qu'il reste? Quels souvenirs? Quelles images, même fugaces?
Je ne me rappelle plus où je l'ai vu. Je sais que c'était dans un cinéma. Ce dont je me souviens, c'est la forte impression que me faisaient les personnages des petits nains. Ils étaient donc sept, et on jouait à se rappeler du nom de chacun. Celui que j'avais repéré, c'est celui qui s'appelait Simplet. Et Simplet ne parlait jamais. Comme les six autres, il adorait Blanche-Neige. Et moi, j'avais remarqué Blanche-Neige, parce que Blanche-Neige avait les cheveux noirs. Et ma mère, qui était très belle, avait les cheveux noirs. Et je me souviens de la méchante reine, et de la sorcière, et de la pomme empoisonnée. Je ne me rappelle plus de la séance, mais je n'ai rien oublié du film.
Ce qui est intéressant, c'est que le cinéma, c'est quelque chose qui a toujours été très présent dans votre famille. Je crois, Francis, que votre grand-père tenait un cinéma à Brooklyn. À quoi est-ce qu'il ressemblait, ce lieu ?
Tout ça, c'était avant ma naissance. Mais ce côté-là de la famille vivait, en fait, dans un cinéma. Et chaque membre de la famille avait ses responsabilités. Ma grand-mère s'occupait de la billetterie. Mon grand-père trouvait les films auprès des gens qu'il connaissait dans le métier à l'époque. Et c'était surtout des films muets italiens. C'était mon oncle qui, dans le hall du cinéma, surveillait les poussettes. Les mamans laissaient leurs bébés dans le hall, et si l'un se mettait à brailler, il allait dans la salle pour faire une annonce. Bébé qui pleure. Tout ça, c'est le folklore familial. Mon autre grand-père, du côté de mon père, était le concepteur du système Vitaphone, une technique qui avait permis de produire le premier film sonore quand Al Johnson a tourné le célèbre chanteur de jazz. Mes grands-parents, des deux côtés, ont vraiment accompagné les premiers pas du cinéma.
Pourtant, l'écran de cinéma, ce n'est pas quelque chose que vous sacralisez pour autant. Récemment, je vous ai entendu dire que le cinéma sur l'écran d'une salle, sur un écran de télévision ou de téléphone, ça restait du cinéma.
Je suis pas sûr de votre question. Si je pense que ça peut rester du cinéma, le cinéma semble avoir été capable de renaître à chaque nouvelle avancée technologique. Aujourd'hui, on sait bien, quand on va dans une salle, qu'on n'assiste plus à la projection d'un ruban de pellicule 35 mm qui passe dans un projecteur mécanique. Aujourd'hui, on projette des fichiers numériques, mais nous semblons toujours éprouver des difficultés quand il nous faut imaginer les dispositifs et les procédés concrets qu'on utilisera pour voir des films dans l'avenir. Je me rappelle de beaucoup de films de science-fiction des années 40 et 50, et on y voyait des grands écrans qui étaient censés être les postes de télévision du futur. Mais personne ne parlait jamais de salles de cinéma dans ces films faits dans les années 50. Les personnages se baladaient avec des petits appareils portables comme les nôtres. Alors, j'ai aucune idée de comment le cinéma sera vu et perçu et s'exprimera, ne serait-ce que dans 10 ans.
Pour autant, Francis Ford Coppola, au cours de votre carrière, je pense par exemple au Parrain en 1972, est-ce que vous avez eu le sentiment d'être de votre temps ou au contraire d'être en avance sur votre temps ?
Tout au long de ma vie, quand j'y réfléchis, j'ai eu le sentiment intime de faire toujours des films dans un terrible état d'urgence dont j'essayais de m'extirper. Je vois surtout ma carrière comme une suite de gestes désespérés pour survivre. Je me rappelle pas tant des films ou de ce que je voulais dire à l'époque. Je me souviens d'avoir été à chaque fois dans une situation catastrophique et de chercher à en sortir.
Mais je vous pose la question parce que je sais qu'à chacun de vos films, vous avez toujours eu à cœur d'expérimenter, d'innover, de prendre certains risques. Est-ce que vous avez l'impression que l'économie du cinéma telle qu'elle existe aujourd'hui, telle qu'elle pourrait exister demain, permet encore de prendre ces risques ?
Mon époque et son système économique, politique, commercial, pour faire des films, c'est-à-dire dans lequel les films coûtaient beaucoup d'argent et que quelqu'un devait risquer cet argent. Mon époque n'était pas meilleure qu'aujourd'hui. La différence, c'est que c'était une période de changement. Le public n'allait plus voir le genre de films que les studios avaient l'habitude de fabriquer. Et ces studios étaient dans le doute. Aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de changements et d'inquiétudes en ce qui concerne l'ego du public. Mais les studios croient les connaître. Et ces goûts-là sont aléatoires. Et la seule chose dont nous sommes sûrs, c'est que l'industrie du cinéma, elle est à vendre. Et qu'une poignée de sociétés qui sont richissimes et qui ont un besoin vital de contenu, ces sociétés de médias comme Facebook, Apple, Microsoft, probablement que dans quelques années, ces entreprises posséderont toute l'industrie cinématographique. Et quand on parlera des producteurs de films ou des studios, on voudra dire Microsoft, Apple, Netflix, Amazon, Facebook. Ce genre de boîte.
On parlait de risque, celle qui ne prend aucun risque dans cette émission. Peut-être que vous la connaissez, Francis, c'est la culture et son actualité froussarde, frileuse, molle et veule. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 25 octobre ?
Comic Trip, c'est aujourd'hui que débute à Paris la 5e édition du Comic Con, grand messe de la pop culture en tout genre, BD, cinéma, cosplay, série. La convention propose plus de 200 événements et célèbre deux anniversaires de légende, les 80 printemps de Batman et de l'écurie Marvel. Côté invité, on pourra notamment y croiser le dessinateur culte Jim Starlin, Benoît Poulvord, Leila Bekti pour leur prochain film Comme je suis devenu un super-héros, et puis l'acteur Callan Mulvey, Drazik, inoubliable de nos après-midi télé devant Harkley, cœur à vif, cœur avec les doigts. C'est l'amour à la plage. José Tamarin, guitariste de Niagara, c'était un mardi, il avait 68 ans seulement. Originaire de Rennes et membre fondateur du célèbre groupe qui avait enflammé les dance floors des années 80 avec les tubes L'amour à la plage ou Je dois m'en aller, il avait participé à l'essor du rock alternatif breton aux côtés du groupe tout aussi culte Marquis de Sade ou encore d'Étienne Dao. José Tamarin avait quitté Niagara en 1986. Salut l'artiste. Le mot est à toi. Dès demain, la semaine de la pop philosophie à Marseille passe à l'heure du crime. Rendez-vous éclectique et réjouissant de l'automne. La manifestation inaugure une 11e édition placée sous le thème sociologie et esthétique du crime. De Hitchcock à Scarface, philosophe, chercheur, journaliste interroge la beauté de la terreur, l'esthétique du gangster au cinéma ou la vertu du truand. An offer that we can't refuse. Vous l'avez, Francis, celle-là ? Et puis ouf, c'est vendredi, alors on sourit et on caresse son body, ni nous, car aujourd'hui dans les bacs, on craque pour Cry, la nouvelle livraison des Texans stylés de Cigarette After Sex. On s'évade dans les grands espaces de Colorado, Odyssey Blues, écolo cosmique, signé Neil Young and Crazy Horse. Et sinon, après Janine, on tombe sous le charme d'Amina avec L'Homme Pâle, qui propose une réédition de son dernier opus augmenté de 11 inédits. On dit oui.
Francis Ford Coppola, invité exceptionnel de Boomerang ce matin. Et 2019 est pour vous une année triplement symbolique. Francis, vous êtes récompensé par le prestigieux prix Lumière à Lyon. Vous avez fêté il y a quelques mois vos 80 printemps. Et votre film Apocalypse Now a 40 ans. Vous qui si souvent dans vos films avez évoqué le temps, qu'est-ce qu'il représente, le temps pour l'homme que vous êtes?
Les humains sont des créatures très intéressantes. Nous avons la faculté de scinder notre perception du monde, de la compartimenter, pour mieux l'appréhender, pour mieux l'étudier. Mais parfois, nous faisons l'erreur de penser que ces fragments que nous créons artificiellement sont une réalité. Or, il nous faut toujours nous rappeler que nous fractionnons les choses parce que nous voulons les comprendre et que c'est qu'une méthode de travail. Le temps lui-même, c'est un concept que nous ne comprenons pas véritablement. Et puis, il fait vraiment partie d'un tout. Notre corps, nous le morcelons, on distingue les mains, les bras, les jambes, mais ce n'est qu'une fiction, c'est le tout qui prime. Nous ne devrions jamais croire les fables que nous inventons pour déchiffrer le monde. Et une de ces fables, c'est le temps. Qu'est-ce que le temps? Comment le vit-on? Comment le contrôle-t-on? Ou est-ce que c'est lui qui nous tient? Voilà un sujet de grande curiosité.
On entend ici celui qui a commencé comme scénariste, Francis Ford Coppola. Qu'est-ce que c'est pour vous une bonne histoire?
Une bonne histoire, c'est un récit qui nous concerne, qui nous entraîne, qui nous embarque dans un voyage, qui a peut-être un début, un milieu et une fin, même si Jean-Luc Godard a toujours dit « Oui, il y a un début, un milieu et une fin, mais pas forcément dans cet ordre. » Et en chemin, cette histoire nous mène à une pas apogée, à un point culminant, à une résolution de la problématique qu'on avait dès le début. D'une certaine manière, une histoire, c'est l'expression condensée de notre histoire à nous, c'est-à-dire de notre vie.
the gas in the world smells like that. I love the smell of napalm in the morning.
To those who do not know what horror means. Horror. Horror has a face. And you must make a friend of horror. Horror and moral terror are your friends. If they are not, then they are enemies to be feared.
This is the end, beautiful friend.
Shall we dance?
I believe in America. America has made my fortune.
Now you come to me and say, Don Corleone, and give me justice. You don't ask for respect. You don't offer friendship. You don't even think to call me Godfather.
I ask you for justice.
That is not justice. Your daughter is still alive.
This is a world of hidden mics and two-way mirrors. A world where nothing is private. Be careful, Harry. You're just supposed to listen. Not look. Not feel. Not care.
Here occurred the frightening and shocking history of Prince Dracula.
What are you?
Vampires do exist. Horror. Horror.
Je le disais, cette année, Francis Ford Coppola, c'est aussi celle du 40e anniversaire d'Apocalypse Now, Palme d'Or à Cannes en 1979, un film aujourd'hui considéré comme l'un des plus importants de toute l'histoire du cinéma, réalisé après le triomphe des deux premiers volets du Parrain. Pourtant, ce film, au départ, personne n'y croyait. Pour quelle raison ?
Non, I was very surprised.
Mais j'ai été très surpris par tout ça. Je n'avais pas prévu le grand succès et l'influence sur le public qu'a eu le Parrain. Et je ne voulais pas faire le deuxième Parrain. Et je n'avais pas prévu le succès de cette suite, qui m'a d'ailleurs surpris plus que n'importe qui d'autre. Et le troisième film, Conversation secrète, qui était un projet plus personnel dont j'avais vraiment envie, il a lui aussi été un succès. Il a remporté la Palme d'Or. Et après cette suite de succès impossible à prévoir, je me suis dit que je pouvais me lancer dans un nouveau projet, et personne n'a voulu que je fasse le film dont j'avais envie. Je me suis rendu compte que le succès ne vous servait finalement qu'à refaire le même film pour retrouver le même succès, en tout cas le même genre de film. Et j'aurais eu aucun mal à trouver de l'argent pour faire un film de gangster, mais comme je voulais faire un film sur la guerre du Vietnam, personne ne voulait le financer. Et en vérité, je possède le négatif d'Apocalypse Now. Je suis propriétaire de ce film. Mais la seule raison pour laquelle il est à moi, c'est que personne n'en voulait.
Mais avec le temps, Francis Ford Coppola, pourquoi est-ce qu'un film reste, selon vous ? Vous avez fini par le savoir ?
J'imagine qu'il doit y avoir un ingrédient. Il doit venir d'un artiste dont la sensibilité, quelque part, ne se limite pas au canon de son époque. Il y a des artistes, vous le savez, des peintres français à la Belle Époque, au temps de l'Académie des Beaux-Arts. Il y avait beaucoup d'artistes qui rencontraient le succès, mais qu'on a complètement oublié. Matisse, Rousseau et les autres merveilleux grands peintres que nous connaissons. Ils étaient pauvres. Personne ne voulait de leurs tableaux.
L'échec, ça a un sens pour vous ?
L'échec est partie prenante du succès. L'échec, c'est l'étape par laquelle il vous faut passer pour réussir.
Et la folie, ça a un sens pour vous ? Vous qui avez, et vous le dites volontiers, failli sombrer dans la folie pendant le tournage d'Apocalypse Now ?
Mais c'est quoi la différence entre la folie et la raison? Souvent, je me dis que notre personnalité à chacun, c'est un mélange singulier entre ces deux états. La raison, c'est ce que vous retrouvez pour être en contact avec le quotidien, avec la réalité. On considère ça comme la vérité, puisqu'on doit bien y retourner régulièrement. Alors que ces moments de folie, d'inspiration ou de rêve, on ne sait jamais où ils vont nous mener. C'est un état qui n'a pas la cohérence de la réalité. Alors, qu'est-ce qui est vrai, la réalité ou bien le rêve dans sa vérité à lui? Nous n'avons pas le moyen de le savoir.
On va en reparler de folie, mais aussi d'images, d'émotions et peut-être même de gangsters, qui sait. On écoute Coolio, Gangster's Paradise en 1995. Vous êtes sur France Inter avec Francis Ford Coppola. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the streetlight.
Been spending most of the nights living in the gangster's paradise. Been spending most of the nights living in the gangster's paradise. Keep spending most of the nights living in the gangster's paradise. Keep spending most of the nights living in the gangster's paradise.
Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life. I was raised by the state, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life, do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know.
Boomerang sur France Inter. Augustin Trapenard.
Ah bah, on est quelque part entre le parrain et le Père Noël, hein, c'est assez troublant. Avec son air débonnaire, sa barbe sucre d'orge, son genou câlin, son crâne chapeau velours et bottes de cuir, on sait pas trop ce qu'il prépare. Peut-être une comptine sur Rudolph, son reine préféré, un plat de spaghettis pour 10 convives, une partie de fléchette avec cible vivante. Le cinéaste Francis Ford Coppola, invité de Boomerang ce matin pour son prix Lumière. Et c'est l'occasion de revenir sur une vie de cinéma. Parmi les grands thèmes qui ont marqué votre filmographie, comment ne pas parler de la famille? Je pense évidemment à la trilogie du Parrain, mais encore à Rusty James ou Tétro. Comment est-ce qu'on met en scène la famille? Comment est-ce qu'on la filme?
Naturellement, nous avons tous une relation avec une famille. Et si c'est pas un père, une mère, un frère, un lien de sang, alors c'est un groupe auquel on s'identifie, une troupe, une équipe de sport. Les êtres humains ont cette tendance naturelle à vouloir coopérer. Et notre avantage en tant qu'espèce, c'est que nous étions capables de tisser des liens sociaux avec nos congénères. Et nous avons été capables d'accomplir des prouesses par ce sens de la collaboration. D'autres espèces humaines n'avaient pas ce talent, et c'est nous qui les avons supplantées.
Alors comment on met ça en image?
Là aussi, c'est notre capacité à collaborer. C'est ce qu'on fait tout le temps. Il y a un million d'années, notre espèce était capable de tuer un animal bien plus grand et plus fort que nous parce que nous avions une stratégie. Il y avait un ancien dans la tribu qui pouvait dire « Ah, le moyen d'y arriver, c'est de se placer en hauteur et de lancer des pierres sur l'animal. » On partageait des idées. Et c'est ce qu'on fait toujours. C'est comme cela que nous accomplissons des merveilles. On y arrive par la collaboration, qui est notre talent principal et qui nous a permis de nous développer, de progresser. Comment mettre ça en scène? Comment le montrer? Il y a beaucoup de façons. Mais on peut penser à une situation où une famille, ou un groupe, ou une équipe, par le partage d'idées, arrive à atteindre un but inaccessible pour un individu tout seul. Et on a tous encore beaucoup à apprendre. Nous sommes loin du but. Parce que si dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de gens peuvent trouver des livres et même savent lire, dans d'autres pays, les filles, par exemple, n'ont pas le droit de posséder des livres. Alors en attendant que les humains partout puissent jouir du stade ultime de la collaboration, c'est-à-dire l'éducation, en attendant que l'éducation devienne la véritable ambition de notre société et remplace la production, c'est-à-dire l'accumulation de richesses, l'humanité est paralysée.
Je sais, Francis Ford Coppola, que vous étiez un enfant lecteur, que la littérature a accompagné toute votre vie. Quelle est la plus belle chose que vous ayez appris dans un livre ?
Ce que j'ai appris de plus important dans un livre, et c'est un message que j'ai perçu à de nombreuses reprises, c'est que le destin de l'espèce humaine ne pourra être assuré que lorsque nous aurons su changer nos priorités. Aujourd'hui, dans le monde, la priorité pour chaque pays, c'est d'accumuler les richesses. Mais est-ce un objectif raisonnable ? Ne serait-il pas plus profitable de ne pas tendre à simplement amasser les biens? La richesse, c'est comme la pauvreté. On ne peut pas avoir de richesse sans la tenir de pauvres qui sont prêts à tout pour cette richesse.
Vous pensez à quel livre, là?
Voilà, je pense à de nombreux ouvrages, de nombreux auteurs qui ont tous cherché à comprendre la nécessité d'une utopie, la nécessité d'un mode de vie supérieur au nôtre. Regardez à la télévision les horreurs que les humains perpétuent contre leurs congénères et contre leurs frères. Ma femme me dit toujours, mais c'est la nature humaine que de vouloir dominer son voisin, que de posséder plus que lui. Et moi je réponds, mais c'est vraiment ça notre nature? Ou c'est juste la direction que l'on suit maintenant? Et si on changeait d'objectif? Et si on passait de la production à l'éducation? Qu'en serait le résultat? Les gens seraient-ils pareils? Ou seraient-ils plus fraternels? On n'en sait rien.
À quel moment, Francis Ford Coppola, est-ce que vous avez compris que faire des films, c'était aussi une façon de vous raconter, d'écrire sur vous?
Je ne suis pas sûr. Qu'enfant, je m'en doutais. J'ai commencé mon travail vraiment très jeune. Je faisais du théâtre et j'écrivais dès l'âge de 15-16 ans. Et j'étais réalisateur, disons professionnel, à l'âge de 22 ans. Je ne sais pas quand j'ai compris où j'allais. Je sais que j'avais beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de curiosité, et que j'avais la volonté de travailler dur. Mais je n'étais pas doté d'un talent tombé du ciel, comme certains qui dansent comme un dieu, ou qui dessinent fantastiquement bien, ou qui peuvent écrire ou chanter, bref, qui ont un don. Les autres, comme moi, ils voulaient avoir le don, mais ils ne l'avaient pas. Alors on s'est débrouillé en bossant, en essayant encore et encore. C'est une autre façon d'arriver à faire des films. Prenez le réalisateur Roman Polanski. Il avait déjà le talent. C'était un don. Steven Spielberg, c'est la même chose.
Il faut bien que vous ayez un talent quand même. Quel est-il, votre talent ?
Mon talent à moi, c'est l'enthousiasme et une grande imagination et une étrange capacité à voir l'avenir, ce qui me surprend. Mais j'ai parfois des visions de ce qui arrivera plus tard, et ça arrive. Je ne sais pas comment ça marche.
Qu'est-ce que vous voyez là, maintenant, tout de suite, Francis Ford Coppola ?
Je vois un monde de grande harmonie et de grand bonheur. Et c'est drôle, au Festival Lumière, j'ai vu une salle remplie d'enthousiasme et d'amitié et de fête. Et là, je me suis dit, mon Dieu, voilà les trois choses dont le monde a maintenant besoin. Avec tous les problèmes qu'on a, si on pouvait retrouver l'enthousiasme, l'amitié et la fête, toutes nos histoires seraient résolues.
L'amitié, l'enthousiasme, la célébration. Merci, Francis Ford Coppola, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Et merci à votre interprète ce matin, le corléonien Harold Manning. Je rappelle, Francis, que vous venez de remporter le prix Lumière et qu'on vous en félicite. Merci à vous et merci à toute l'équipe de Boomerang. Lola Costantini, Perrine Malinge, Léonard Billot, Pierre Martinerie, Joséphine Dumoulin, Jean-Baptiste Audibert. Merci aussi à Chantal Nouvelot pour la prise de son ce matin. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, l'Instant M, juste après ça.
Le silence a disparu. Ça me fait aussi peur que le vacarme. Aussi loin que je me souviens plus. Aussi loin que je me souviens plus. Je t'attends sur le coin d'une rue. Je sens le métro qui gronde sous mes bas. Pourquoi tu purges ma peine, je me souviens plus. Aussi loin que je me souviens plus. Ah ouais, c'est maudit de parole. Montrer les dents, montrer les âmes. On s'aime aussi bien qu'on s'aime, qu'on s'aime, qu'on s'aime, qu'on s'aime. Ça dépend de la conjoncture. Je fais le point sur les soutiens, je recolle les petits bouts de toi. Les petits bouts de toi qui traînent par-ci, par-là. Maman, 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 ce moment j'ai mal. Comment qu'on fait, comment qu'on soigne. Ouais, dis à le bout. J'ai le cœur poids plume. Dis-moi je t'aimerais si tu m'aimes plus. Promis je t'aimerais si tu m'aimes plus. J'ai le cœur poids plume. Le cœur poids plume. Le cœur poids plume. Le cœur poids plume.
Cœur poids plume, qu'il est bien ce titre quand même ce matin. Merci à Anna Duy d'avoir fait une si belle réalisation pour nous cette fin de semaine. Et puis que je dis, c'est pas l'instant M, tout de suite c'est le rendez-vous de la médiatrice. Avec qui ? Avec Emmanuel Davier.